Bonjour, je suis seul aujourd'hui pour vous présenter le dernier volet des historiens de Domfront. Vincent n'est pas là pour me donner la réplique. Nous en y étions arrêtés à Georges Lasseur, excusez-moi, dont nous avons dit beaucoup de bien. Et la transition est toute trouvée avec Gabriel Hubert, parce que Gabriel Hubert a beaucoup aidé Georges Lasseur dans ses recherches. Alors, Gabriel Hubert, il y a deux Gabriel Hubert. Hein. Il y a Gabriel Hubert père, qui était coiffeur, mais qui était aussi éditeur de cartes postales. Il y a plein de Domfrontais qui le connaissent, parce que sur les cartes postales anciennes du début du siècle, on voit son nom. Mais là, nous ne parlons pas du père, nous parlons du fils. Alors, Gabriel Hubert, il était pharmacien, il a fait des études, il était docteur en sciences, pharmacien, rien que ça. Un docteur en sciences naturelles, hein. Mais il avait aussi le goût de l'histoire. Il avait fait des grandes études, notamment il avait fréquenté l'école des Chartes, rien que ça, et il avait un diplôme d'archiviste paléographe, et donc il était capable de lire tout seul comme un grand les documents anciens. Alors Gabriel Hubert, il n'a pas écrit de livre d'histoire de Domfront, de livre au sens strict, mais il a écrit de nombreux articles, ou alors des petits opuscules, comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on écrivait un article, on le faisait relier, et on avait une petite plaquette de quelques pages. Ou alors il y a des choses qu'il n'a même carrément jamais éditées, qui sont restées sous forme de tapuscrits, notamment une histoire d'Étrigé, de l'église d'Étrigé. Donc, Gabriel Hubert, c'est un bon chercheur. Il a été secrétaire du Pays-Bas normand aussi. Il a été la cheville ouvrière du Pays-Bas normand après-guerre. Et il est mort en 1959. Après Gabriel Hubert, bon, nous allons prendre son successeur justement au secrétariat du Pays-Bas normand, qui était Jean Grandin. Jean Grandin, il était né en 1922. Gabriel Hubert était né en 1889, hein, je ne l'ai pas dit. Jean Grandin était né en 1922, excusez-moi, et il a été secrétaire du Pays-Bas normand en 1959, après le décès de Gabriel Hubert, et il l'a été jusqu'en 1973. Il est mort en 1976. Alors lui aussi, Jean Grandin, n'a pas écrit d'histoire de Domfront. Et comme Gabriel Hubert, enfin moins que Gabriel Hubert, il faut être honnête, il a écrit divers articles. Et notamment, il a rédigé en son temps la plaquette touristique consacrée à Notre-Dame-sur-l'Eau, alors que l'on trouve toujours. Alors là, ce qu'on trouve de nos jours, c'est une version revue depuis peu, mais son travail reste à la base de l'édition actuelle. Donc Gabriel Hubert, Jean Grandin, nous descendons dans le temps. Mais nous continuons, hélas, avec des gens disparus. Et nous allons parler de Gérard Louise. Alors, Gérard Louise, c'est aussi quelqu'un du Pays-Bas normand. Et Gérard Louise était né en 1952 à Paris, mais sa famille, qui était originaire du Bocage, y est revenue très vite. Hein, il est revenu en 1955, ce qui fait que il a fait toutes ses études. Bon, à Flers, hein. Grosso modo, ses études secondaires à Flers, puis ensuite à l'université de Caen. Donc il est né à Paris, mais c'est un Normand. Donc une famille d'origine modeste, hein. Je crois que ses parents étaient ouvriers, ou quelque chose comme ça, et c'est un pur produit de ce qu'on appelle de nos jours la méritocratie scolaire. Donc il a eu un baccalauréat, ensuite il a fait une licence, une maîtrise en histoire médiévale à l'université de Caen. Il a fait un mémoire de maîtrise sur la dîme dans l'Ouest ornais du 10e au 12e siècle, je crois, du 9e au 15e siècle même, peut-être, c'était plus large que ça, la dîme, l'impôt ecclésiastique. Et c'est paru au Pays-Bas normand, c'est un des fascicules du Pays-Bas normand. Et puis ensuite, il a obtenu le CAPES. Et donc devenu professeur d'histoire, il a été nommé dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Alors, ça tombait bien parce que dans le Pas-de-Calais, bah, c'est chef-lieu Arras. Et à Arras, il y a les archives départementales. Et dans les archives départementales du Pas-de-Calais, il y a un certain nombre de documents domfrontais. Donc Gérard Louise a été les voir. Il en a tiré un ouvrage qui est vraiment extrêmement intéressant pour nous autres historiens du Domfrontais, qui s'appelle « Domfront au XIIIe siècle, catalogue des actes des comtes d'Artois concernant Domfront aux archives du Pas-de-Calais ». Il en a retrouvé 235, il prétend que ce n'est pas exhaustif, qu'il y en a peut-être encore d'autres, mais enfin, il a dû quand même voir le maximum de choses, Gérard Louise. Et puis c'est précédé d'une introduction très intéressante sur Domfront au XIIIe siècle, qui reprend un peu le travail qu'avait fait Louis Duval sur Domfront au XIIe siècle, qui était paru dans le bulletin de la Société historique et archéologique de Normandie en, je ne me souviens plus la date, 1889, ou quelque chose comme ça. Donc, et puis après, Gérard Louise a poursuivi ses études. Il est revenu dans l'Ouest, en Loire-Atlantique, hein, au lycée de Pornic, enfin, dans ces régions-là. Et puis, pendant ce temps-là, il préparait sa thèse. Et il a soutenu une thèse, un doctorat d'État sur la seigneurie de Belém. Alors, c'est pas uniquement Domfront, mais Domfront étant dans la seigneurie de Belém. Ça concerne évidemment notre sujet, donc du 10e au 12e siècle. Alors le titre exact, c'est « La seigneurie de Belém, 10e, 12e siècle, d'évolution des pouvoirs et construction d'une seigneurie de frontière aux confins de la Normandie et du Maine à la charnière de l'an 1000 ». C'est un travail extrêmement sérieux, j'irais jusqu'à dire austère, qui n'est pas très très facile d'ailleurs à lire et à manier. Et là aussi, il a été publié au Pays-Bas normand. Le Pays-Bas normand, de toute façon, s'est fait une spécialité récente de publier des travaux universitaires, des mémoires de maîtrise ou des thèses, a fortiori quand il s'agit de ses membres. Et donc, il a été publié en deux tomes assez épais, d'ailleurs, au Pays-Bas normand. Je crois que c'était en 1990, je ne veux pas dire de bêtises. 90, 91, je crois, quelque chose comme ça. Je vérifie rapidement sur mes notes. Oui, c'est ça, 90 et 91. Donc voilà, c'est la... Donc lui, il s'est intéressé aux périodes anciennes. Donc c'est un historien très, très scrupuleux, très, très complet, très rigoureux, très méthodique. Gérard Louise. Et puis donc, puisqu'il avait sa thèse, il a postulé pour des emplois dans l'enseignement supérieur. Il a été nommé maître de conférence à l'université de Bordeaux 3, Michel de Montaigne. Et puis, tout à fait à la fin, il a été nommé professeur d'université, top du top, le sommet de la carrière, à l'université de Nantes. Sauf que le pauvre n'a pas profité beaucoup, parce qu'il est mort prématurément. Je pense que c'est un cancer. En 2001, et il avait seulement 48 ans. Donc voilà. Et puis, hein, mis à part donc sa maîtrise et sa thèse, il avait aussi rédigé pas mal d'articles, participé à des colloques, etc. etc. Donc, c'est une grande perte, Gérard Louise, pour la recherche, parce que c'est un des derniers grands médiévistes de l'histoire de Domfront et du Bocage. Toujours dans la catégorie des disparus, je vais mentionner mon ex-collègue Daniel Yvetot. Alors, dans des périodes tout à fait différentes. Daniel Yvetot, il était professeur de lettres modernes. Il est arrivé au lycée de Domfront pour finir sa carrière, parce qu'il n'est pas arrivé tout jeune. Il est arrivé en 1900, je crois, 84, à une année près, 83 ou 84. Et il y est resté jusqu'à sa retraite. Et puis, ensuite, il a poursuivi des travaux. Alors, c'était un inlassable chercheur. Et ce qui l'intéressait, lui, c'était d'avoir des contacts avec les gens. Donc il allait voir les personnes âgées qui avaient connu le Domfront du XXe siècle, enfin bon, du début du siècle, ou de la guerre, ou de l'occupation, et il les faisait parler, il rassemblait également des tas de documents, des prospectus touristiques, des cartes postales, enfin des tas de choses. Il a un fonds d'archives contemporaines extrêmement important. Donc, il a publié, donc c'est le maître de l'histoire de Don Juan au XXe siècle, Daniel Yvetot, il avait envisagé de publier toute une série sur Don Juan au XXe siècle, enfin en tout cas dans la première moitié du XXe siècle, de 1900 à 1950 ou 1958. Mais il n'a pas été au bout de son travail. Alors ça s'appelait du côté de chez Beauclerc. Et il devait y avoir 4 tomes et il a eu le temps de n'en publier que 2. Il a publié « Ô mon pays ». Le titre vient d'un poème, je crois, de Madame Chalk de la Favrie, je crois. C'est grosso modo la période 1900-1920. Ce qui se passait à Don Juan, les fêtes folkloriques, etc. etc. Mais aussi les Don Juanais qui sont partis à la guerre de 14-18, leurs souvenirs, les dessins qu'ils en ont rapportés. Bon. Donc « Ô mon pays », 1900-1920, et le deuxième tome, « Le livre de Mademoiselle Pauline », couvrait la période 1921-1939. Il devait y avoir théoriquement un troisième tome sur la période de l'occupation et un quatrième tome sur la période de l'après-guerre, mais qui n'ont jamais paru. Alors, ce sont des ouvrages très très illustrés, hein, de cartes postales, des documents qu'il a retrouvés, de toute nature qu'il a retrouvés, plus qu'un véritable récit construit. Voilà, et Daniel Yvetot nous a quittés récemment, je crois que c'était en 2020, pendant la crise du Covid. Je ne garantis pas qu'il soit mort du Covid, mais enfin, voilà. Voilà, ça c'était les historiens, on va dire, décédés. Et puis, évidemment, plus on se rapproche de l'époque contemporaine, plus les gens vivent encore. Alors, dans les historiens de Don Juan vivants, nous allons mentionner évidemment Bernard Desgrippes, qui du Pays-Bas normand, qui a édité de nombreux livres au Pays-Bas normand, dont le guide du vieux Don Juan. Alors, le guide du vieux Don Juan, il a un immense avantage sur tous les guides touristiques, c'est que Bernard Desgrippes a été à l'intérieur des vieilles maisons, donc on voit les intérieurs qui sont a priori pas trop visitable, en tout cas pas directement. Il a édité beaucoup, il a une collection de cartes postales importantes, c'est pas un secret de trahir ça, et qu'il a édité dans Don Juan 1900-1914. Il a édité aussi, toujours aux Pays-Bas normands, un Châteaux et manoirs, qui s'appuie sur le dernier chapitre de La Sœur, mais qui est illustré de photographies. Et puis, plus récemment, des histoires ou des monographies sur Rougeron, qui a été maire de Don Juan après-guerre, qui a fait de la résistance et puis qui a été maire de Don Juan après-guerre. Il a exhumé la figure d'un aventurier d'origine donfrontaise qui s'appelait Le Louvier. Il a édité aussi des correspondances militaires, des cartes postales sur Passet. Enfin bon, beaucoup de travail dans ce domaine-là. Et puis, il a également et surtout retrouvé et publié un tableau naïf qu'on attribue à Caillebotte. Moi, je ne suis pas certain que ce soit Caillebotte qui l'ait peint, même si Caillebotte a eu un neveu peintre impressionniste. Ça ne veut pas dire que l'oncle était peintre lui-même, mais peut-être que le Caillebotte en question, c'est le Caillebotte dont nous avons parlé, historien ancien, hein. Peut-être que Caillebotte avait commandé ce tableau, enfin, allez savoir. Donc il a retrouvé le tableau de la face sud de Don Juan, c'est un tableau très intéressant, très précis, qui montre l'aspect de Don Juan vers 1800, on ne peut pas exactement le dater, à quelques années près, c'est aux alentours de 1800. Pardon. Et puis, et on sait qu'il existait un tableau de la face nord, dont on a une photographie en noir et blanc, et on cherche où a pu disparaître... le vrai tableau original. Donc Bernard Desgrippes, toujours vivant, toujours actif. Et puis sinon, toujours, on peut rajouter Karine Lair, qui est agent de valorisation du patrimoine à la mairie de Don Juan, qui a publié, la mairie lui avait demandé en 1995-96 d'éditer résumé d'histoire de Don Juan, dans ce qu'elle a fait, hein, Don Juan, 10 siècles d'histoire, c'est une compilation richement illustrée qui est parue en 1996. Bon, c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas de l'histoire, c'est pas de la recherche pointue, c'est plutôt quelque chose accessible pour le grand public, pour les touristes. Et je dirais un mot également de mon ex-collègue de philosophie au lycée, Lionel Letendre, qui, bon, même chose, il n'a pas fait d'études d'histoire de Donfron. Par contre, il a publié, il a fait des recherches et publié une étude très, très complète et très précise sur la période 1944, les bombardements américains de juin 1944 sur Donfron. Alors là, il sait tout, il a été jusqu'aux archives des unités américaines qui ont bombardé Donfron, et elles sont extrêmement précises. Et sur la libération de la ville à la mi-août 1944. Alors malheureusement, il n'a pas édité ça sous forme écrite, hein, il n'y a pas de numéro, ni aux Pays-Bas normands, ni dans les conférences d'histoire du lycée de Donfron, mais ça se trouve, en tout cas actuellement, sur le site du lycée. Alors plus scientifique, en tout cas plus médiéval, il faut mentionner, bien évidemment, incontournable, le dernier peut-être grand historien médiéviste, en attendant le suivant, du Pays-Bas normand, c'est Franck Mauger. Franck Mauger, c'est un ancien élève du lycée, je crois qu'il est né en 1970, à une année près, enfin quelque chose comme ça, qui avait l'histoire dans le sang, et il a fait des études d'histoire à l'université de Caen, il a réussi l'agrégation d'histoire, et il est professeur en classe préparatoire littéraire au lycée Malherbe de Caen. Et quand il cherchait des sujets de mémoire de maîtrise à l'époque, ce qu'on appelle de nos jours des M1, pas beau, il s'est dirigé vers une période qui était très mal traitée, très mal connue, y compris dans la Sœur d'ailleurs, c'est-à-dire la période d'après la guerre de Cent Ans. Parce qu'avant la guerre de Cent Ans, on a les comtes d'Artois, bon, les documents sont connus, ont été exploités, pendant la guerre de Cent Ans, c'est assez riche aussi, et lui donc, il a été après. Et donc, il en a tiré un mémoire de maîtrise qui a été lui aussi édité aux Pays-Bas normands, vous voyez, qui s'appelle « Une vie comptée entre Moyen-Âge et époque moderne, Donfron 1450-1520 ». Donc, ça a été édité aux Pays-Bas normands, je ne sais plus trop quand, dans les années 99, 2000, ou quelque chose comme ça. Et puis, il a poursuivi, ou peut-être un peu avant d'ailleurs, il a poursuivi donc ses études et ses recherches, s'est élargi au comté puis duché d'Alençon. Et comme la vicomté de Donfron était inclus à partir de 1343 dans le comté d'Alençon, il traite indirectement Donfron dans ses travaux. Alors il a d'abord eu publié un mémoire de DEA. On appelait ça jadis une thèse de troisième cycle, en 2003, sur l'apanage d'Alençon, perspective de recherche, enfin, c'est des travaux préparatoires à la thèse. Et il y a toute une partie entière consacrée à Donfron qu'il prend comme exemple d'une des parties de l'apanage d'Alençon. Et puis ensuite, il a soutenu sa véritable thèse, hein, son doctorat d'État, en 2017, donc dans une thèse qui s'appelle « Le dernier apanage, les duchés d'Alençon et du Perche », dans lequel je viens d'expliquer que Donfron faisait partie du duché d'Alençon. Donc ça ne traite pas que de Donfron, ça traite au contraire de l'ensemble du duché et du Perche. Donfron est largement abordé dedans. Alors, du duché d'Alençon, il a eu un problème, parce que le duché d'Alençon est un duché qu'à partir de 1414. Avant, c'était un comté, le Perche, c'est également un comté, mais après, c'est un duché. Bon, il a simplifié son titre en disant le duché, point final, et les lecteurs se retrouvent entre comté et duché. Donc voilà, les principaux historiens du Donfrontais. Et puis ici, il faut que je mentionne Jean-Claude Martin, qui a travaillé longtemps professionnellement aux archives départementales de l'Orne, et qui, à ses loisirs, a travaillé sur la vente, l'époque révolutionnaire, hein, il a passé une thèse, il a soutenu une thèse sur la vente des biens nationaux dans le bocage, hein, dans le Domfontein, qui s'appelle « La terre en révolution ». Et j'allais dire, comme d'habitude, c'est paru aux Pays-Bas normands en 1989. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure que le Pays-Bas normand s'était spécialisé maintenant dans l'édition de travaux universitaires la plupart du temps. Enfin, pas toujours, puisque Bernard Desgrippe a édité des ouvrages qui ne sont pas des thèses, hein, ou des mémoires de maîtrise. Mais bon, le Pays-Bas normand, maintenant, c'est surtout ça. Et puis, je vais être obligé de me citer, de citer notre revue, qui, elle, à la différence du Pays-Bas normand, continue à éditer des articles plus ou moins développés, plus ou moins ponctuels. Donc, il s'appelle le Domfontein médiéval. Ça a été fondé en 1983 par Gilles Suzon. Et puis, depuis, j'en suis le directeur de la publication. On a édité 26 numéros. Le 27e est en cours. Alors, il n'y a pas de suite. Hein, c'est pas chronologique. Hein, c'est pas on ne va pas de la période la plus ancienne de Domfront dans le tome 1 jusque vers le plus récent. De toute façon, c'est centré sur le Moyen-Âge, comme son nom l'indique. Et c'est différents articles thématiques sur les fortifications, le château, l'administration, les différents aspects de l'administration de la terre de Domfront, de la châtellenie de Domfront, du bailliage de Domfront ou de la vicomté de Domfront selon les époques au Moyen-Âge. Je me fais un point d'honneur, puisque je suis le directeur de la publication. C'est édité par l'association de restauration du château de Domfront, de faire au moins un article, voire deux, dans chaque numéro. Et puis, on me demande, on va terminer là-dessus, on me demande de faire une nouvelle histoire de Domfront, et j'y travaille. Ce sera, d'ici quelques années tout au plus, je vais faire une nouvelle histoire de Domfront, au moins au Moyen-Âge. Parce qu'on en est resté à l'ouvrage de la sœur, hein, pour les histoires d'ensemble. Et la sœur, on a dit précédemment que c'est des recherches des années 1920 au plus tard. Or, on a trouvé depuis archéologiquement de nouveaux vestiges, hein. Georges Lasseur ne connaissait pas le plan en croix de Saint-Symphorien, par exemple, au château de Domfront. On a trouvé donc des vestiges archéologiques, on a trouvé des documents que Georges Lasseur ne connaissait pas. Donc ça, il est nécessaire de reprendre ça et de faire une histoire qui tienne compte des derniers acquis de la recherche. Voilà, dans les chroniques suivantes, nous aborderons les principaux documents, les grands documents qui nous permettent d'écrire l'histoire de Domfront, qui ont permis à tous ces chercheurs d'écrire l'histoire de Domfront.